Pages arrachées à Nicolas Bouvier. La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Cinquième et dernier épisode, Japon.
Je n'ai même pas entendu la passerelle descendre et le navire accoster. Depuis 3 jours, dans une soute torride sous la grande cuisine, je dégraissais aux tranchoirs et aux jets de vapeur des turbotières et des lèches frites de la taille d'un cercueil. Assisté d'Alcide et de Francis, deux noirs martiniquais qui poursuivaient à longueur de journée, dans un français fleuri, joliment désuet, un dialogue truffé de comptines, proverbes, images bucoliques, et exclusivement consacré à la pénétration du pénis dans le vagin. Ces gracieuses litanies érotiques faisaient très bien passer le temps. Penser ainsi sans cesse à l'amour au milieu de cette graille était vraiment la marque d'un naturel heureux. D'autant plus que l'odeur et la chaleur rendaient le travail si pénible qu'il fallait souvent l'interrompre pour aller vomir le suprême de turbo ou le soufflet maringo que nous venions de dérober au fourneau de la grande cuisine. Dans la brume jaune et grasse de notre cambuse, c'est tout juste si j'ai reconnu les galons du commissaire qui venait me chercher. Adieu Francis. Adieu Alcide. Amusez-vous bien les enfants. Je vous laisse deviner les vœux que ces deux troubadours, sans s'écarter de leur thème favori, ont formés pour mon séjour ici.
Nicolas Bouvier, en provenance de Colombo, après avoir fait escale à Singapour, Saïgon, Hong Kong et Manille, arrive à Yokohama le 29 octobre 1955, avant de gagner Tokyo. Pour payer son voyage, il s'est fait plongeur en fond de cale avec deux hommes, Alcide et Francis, parlant moitié créole, moitié français, qui lui ont appris des rudiments de japonais.
Le temps était superbe. Éclair blanc des mouettes dans le soleil d'octobre, qui est le meilleur mois du Japon. Éclair des flashs. Une demi-douzaine de petits hommes, au visage marqué, m'entouraient déjà et m'interrogeaient dans un jap anglais sans complexe. Qui ? Pourquoi venir ici ? Qu'est-ce que je comptais faire ? Qu'est-ce que j'attendais du pays ? Ce sera dur, très dur. Ça n'ira pas tout seul, me disaient-ils avec de petites inclinations du buste, qui ne me paraissaient ni comiques ni obséquieuses. Et savez-vous vraiment la vie que nous menons ici ? Dur ? Ici au moins il faisait frais. Je venais de passer 8 mois sous les tropiques, confiné par la chaleur et la malaria, dans une auberge vermoulue que les termites transformaient bruyamment en sueur. L'air de Yokohama s'avalait comme du champagne. J'ai consigné mon bagage à Tokyo Central et suis parti au hasard dans cette ville interminable, une brosse à dents dans la poche. C'était un bonheur de marcher dans ces longues avenues rafraîchies par le vent en regardant les visages. Toutes les femmes avaient l'air lavées. Tous les passants semblaient s'acheminer vers une destination précise. Tous les travailleurs travaillaient et l'on trouvait partout des boutiques minuscules qui offraient pour quelques yens un café fort et bon. Petit miracle auquel, après 2 ans d'Asie, j'avais cessé de croire. Cet après-midi-là, j'ai bien marché 20 km au hasard dans la ville. L'air était délicieux. Après 8 heures de promenade, je me demandais encore si cela faisait une belle ville ou même une ville tout court. Puis le soleil est descendu en se gonflant dans un ciel orange, dessinant en silhouette la ligne incongrue des toits, la folle écriture des antennes, des fils électriques et des ballons publicitaires contre un horizon qui virait au rouge. Puis la pluie multicolore des néons. J'ai cessé de me poser des questions. Je me suis trouvé vers 11 heures du soir au petit quartier de Suragadai, dans un parfum de café torréfié et de brochettes grillées. Des rues étroites bondées de familles portant leurs enfants endormis, de lampions, d'enseignes lumineuses, de charrettes éclairées à l'acétylène, où l'on bradait à grande gueulée des cotonnades dernier choix, des bottes en caoutchouc, des jouets de bambou ou de plastique. Sur les deux côtés de la rue, des caisses à ordures disjointes vomissaient leur contenu sur le trottoir. Un bistrot à côté de l'autre. Et tout cela menu, coqué, l'air bricolé de la veille, avec les restes d'une rue plus grande. J'avais faim. J'ai poussé une porte sur laquelle on pouvait lire « Café-bar chi ».« Chi », j'ai demandé, veut dire « poème ». Ça ne m'a pas épaté du tout. Dans ma promenade, j'étais déjà tombé sur deux tea rooms Rilke, un snack François Villon, un billard Rimbaud et un magasin Julien Sorel, lingerie friponne. On a des goûts relevés ici. Dans le local, pas plus grand qu'une roulotte, j'ai à peine été surpris de trouver trois gravures de Daumier et d'entendre l'électrophone murmurer du Ravel. Une clientèle de lycéens, pieds nus dans leurs socs de bois, en uniforme noir, casquette noire, qui épelaient, plongés dans leur noir manuel et luttaient contre le sommeil. J'ai juste eu le temps de penser « séminariste, Tchekhov » et me suis endormi sur une chaise minuscule sans même passer ma commande. Le patron m'a réveillé vers 1h du matin. La salle était vide et la lumière éteinte. Il tenait d'une main un grand vélo qui devait être caché derrière le bar, de l'autre, un verre de lait qu'il a posé devant moi. L'air jeune et timide, « Je m'appelle Shoji », a-t-il dit en mauvais anglais. « Ingénieur en chômage et patron de bar en attendant du travail. Si vous voulez dormir sur une table, vous êtes chez vous. Moi, je rentre. J'ai 2 heures de vélo à faire. Les toilettes sont à côté du bar. On se verra demain. » Il est parti en fermant derrière lui.
Nicolas s'établit seul au Japon durant 1 année. Il s'installe chez un veilleur de nuit du quartier d'Arakisho. Le Japon représente pour lui le bout de la route vers l'Orient et donc la fin du voyage.
Sho est un petit quartier. Ki, le bois ou l'arbre. Et l'arbre, Ara, une sorte de mûrier. Mais il n'y a plus de mûrier à Arakisho. Tournesol, bambou, glycine, maison penchée et vermoulue. Odeur de sûre, de thé vert, de morue. À l'aube, un peu partout, le champ ébouriffé des coqs. Arakisho, c'est en somme un morceau de village oublié dans la ville, dont 4 maisons de geisha de première catégorie avaient autrefois fait la renommée. Elles ont brûlé, comme presque tout le reste, ne laissant qu'une petite école où une poignée de jeunes femmes souffreteuses et tarabiscotées viennent, genoux fléchis sur leurs hautes socques de bois, apprendre à jouer du shamisen, à décomposer leurs pas en 26 mouvements distincts, à manier les poètes classiques ou l'allusion libertine. Mais l'annuaire des geishas de la ville les relègue aujourd'hui en 5e rang, au bord de la galanterie, et le quartier est depuis longtemps sorti des mémoires. Pas un plan ne le mentionne, et les chauffeurs de taxi qui longent ses frontières ignorent souvent son nom. On distingue à Tokyo 2 mentalités bien distinctes. Dans le sud et dans l'est, c'est l'esprit Shitamashi, la basse ville, celui des pénichiers, des poissonniers et maraîchers des halles, des artisans dont les outils n'ont pas changé depuis 100 ans, de la gouaille et du cœur. C'est Shitamashi qui va applaudir les lutteurs à chignon du sumo, la lutte japonaise, et fournit ses contingents de commères qui reniflent et sanglotent au drame du théâtre Kabuki. En somme, le vieux folklore d'Edo. Dans les secteurs plus cossus de l'ouest et du nord, c'est l'esprit Yamanote, côté des collines. Plus bourgeois, studieux, confit. On s'intéresse aux arts traditionnels, la calligraphie, le théâtre no. On a volontiers une pièce à l'occidentale où l'on s'installe sous une suspension de laiton pour lire des livres d'Europe. Plutôt l'ambiance de l'ère Meiji. Arakisho est Yamanote par la géographie et Shitamashi par l'esprit, avec une pointe de rusticité en plus. On n'y voit jamais d'étrangers et les seuls mots anglais qui soient vraiment entrés dans le langage local sont kisu, de kiss, baiser, qui remonte d'ailleurs à l'avant-guerre, et Stenko de Stinky, puant, qu'on a l'occasion de prononcer chaque fois que la pluie noie les fosses septiques ou que le camion des vidangeurs est en grève. Arakisho est encore dans le noir de la cible immense du Grand Tokyo, à 6 stations de train seulement du Palais Impérial. De la gare d'Ishigaya, on longe pendant 10 minutes un canal couvert de lentisques, où, les soirs de lune, les amoureux vont timidement ramer dans des canaux de louage. Puis on atteint, à l'intersection de 2 avenues, un débit de saké d'où une venelle étroite vous hisse jusqu'au plateau d'Arakisho.
Ota-san, mon propriétaire, m'a rendu visite l'autre jour pour s'enquérir de ma santé. Façon délicate mais précise de rappeler que je lui dois un terme. Ses affaires laissent un peu à désirer et les hideux petits meubles de bureau qu'il fabrique ne se vendent guère en ce moment. Qui pourrait coincer ses genoux sous une table et travailler dans cette fournaise ? Plus moi. Voilà déjà une paye que les magazines japonais ne m'achètent plus une ligne. En attendant que la chance tourne, je m'en tire avec 60 yens, 1 franc français par jour. 10 de blanchisserie, important, 23 pour le bain public, indispensable, 10 de pain, 10 de lait et 1 œuf, pesé, à 7 yens, lorsque j'en trouve un suffisamment petit. Je roule mes cigarettes dans du papier avion avec un vieux fond de tabac de pipe et les colle au riz bouilli. Quand Ota-san les a vus, on ne roule pas les cigarettes ici, il est parti d'un rire irrépressible, enfantin, délicieux. Avec son vieux visage plissé, ses chaussettes reprisées, son complet qui pochait au coude, au genou, au derrière, ses dents jaunies et écartées, il avait l'air d'un bon lapin salace, un peu mité. Je lui en ai offert une qu'il a déposée comme une relique dans son portefeuille et qu'il a sans doute montrée partout. Pas un mot au sujet du loyer. Je commençais à savoir manger à la japonaise. Il m'a donc fallu apprendre à ne plus manger du tout. Pour le voyageur, la faim est le meilleur moyen de vaincre les dernières réticences qu'inspire une cuisine étrangère. Au bout d'une semaine de diète, les fumées et les saveurs qui me paraissaient suspects il n'y a pas si longtemps encore me vont droit à l'estomac. Sitôt qu'il en sera de nouveau question, je mangerai de tout. Du daikon, du renkon, gros navet jaune obscène au goût fort et suri que l'on fait macérer dans de la saumure. Du bouillon d'algues, de la limule crue, tabiebi, débité en rondelles. De ces gros coquillages noirâtres, sasae, dont le saké n'enlève pas l'amertume. Même le misoshiro, la soupe aux fèves rouges du petit déjeuner, dont le fumet aigre et brûlé m'a si souvent soulevé le cœur, je l'aime à distance. Je suis acclimaté.
Pour gagner sa vie, Nicolas rédige des articles pour des journaux et magazines japonais. Ce gagne-pain se révélant bien vite insuffisant, il devient photographe.
C'est un simple mur qui m'a tiré d'affaire. Le long de la ligne du tram 7, dans le quartier d'Azabu et sur le trajet interminable que je faisais depuis quelques jours à pied pour chercher mon courrier. Je m'étais assis pour me reposer sur une poubelle fermée et, relevant les yeux, je l'ai vu. Un long mur de béton que les moisissures de l'été et des champignons de salpêtre festonnaient comme un rideau de théâtre. Sur toute la longueur du décor, le trottoir providentiellement surélevé formait une sorte de scène. Et tous ceux qui y passaient étaient bon gré mal gré transformés en caractères, amplifiés comme un écho, projetés dans le comique ou dans l'imaginaire. Je me suis dit, c'est la fatigue. J'ai fermé les yeux un moment. Quand je les ai rouverts, ça continuait à défiler, comme les personnages toujours plus nombreux d'une histoire racontée dans une langue étrangère. Je suis allé regarder de plus près. La surface était d'une belle matière veloutée, celle d'un vieux pot sorti du four. Entre les trous de coffrage et quelques graffitis indécis, une main enfantine mais résolue avait écrit « Baka, imbécile ». Je l'ai pris pour moi. J'avais dû passer 100 fois là, devant, sans rien voir. Mais c'est qu'alors j'en avais moins besoin. Juste en face, entre la voie du tram et la rue, un dépôt de détritus, de cajots, de caisses fournissait un observatoire commode pour voir sans être vu. Je suis remonté dardard vers ma chambre, 4 kilomètres. Je suis allé vendre mes derniers livres à Shinjuku pour m'acheter du film. J'en ai trouvé tout un lot, bradé à moitié prix. « Tombé dans l'eau de mer », dit le marchand. « On verra bien. »
Voilà 4 jours que je vis accroché comme une tique devant mon mur théâtre. Installé sur une caisse, l'appareil sur le ventre, je regarde défiler ce quartier qui ne me voit pas. Côté cour comme côté jardin, la vue est dégagée. Je surveille ceux qui approchent, je suppute leur vitesse et leur trajectoire. Je me tiens les pouces pour qu'ils se croisent devant mon rideau, qu'ils se saluent ou, mieux encore, s'engueulent. Mais on ne s'engueule pas au Japon. J'ai même de la compagnie. 3 chiffonniers édentés et pansus qui passent la journée comme des mulots dans ces ordures. Ils sont à pied d'œuvre avant moi, pour le tombereau que la voirie verse ici chaque matin. 2 vieux, une vieille à la peau grise, aux dents déchaussées. L'après-midi, adossés au tas que la fermentation fait mitonner, ils lisent, la sueur au front, des fragments de magazines arrachés aux poubelles, des journaux de catch, des bandes dessinées, des pages collées d'épluchures ou constellées de pépins de pastèque. Tous 3 portent des lunettes de fer, qui leur fatiguent plutôt la vue. Parfois, la femme crache sur les verres et les nettoie avec un pan de sa chemise, dans l'espoir d'y voir plus clair, pendant que ses vieux compagnons la taquinent, la lutinent et la plaisantent. Ce sont des Eta, ces anciens parias dont la restauration Meiji a fait des Japonais comme les autres. Mais ils continuent à se partager les bas métiers avec les Coréens. Le monde les méprise, et j'ai l'impression que ces 3-là le lui rendent bien. Ils s'intéressent à mon entreprise comme à une sorte de vengeance et ricanent chaque fois qu'un de ces passants qui ne les verrait pas est vu. Vers 5 heures, ils filent vendre au métro d'Ueno ce qu'ils ont ramassé ici. Et dorment je ne sais où. Alors, j'ai le mur pour moi. C'est la plus belle heure de lumière. Quand le vent souffle du nord, l'odeur de saucisse du restaurant bavarois Rheinland descend de Kazumi Cho et vient me flatter les narines. Quand je m'embête, je descends jusqu'à la librairie d'occasion, 100 mètres au sud de mon mur, où j'ai trouvé entre des magazines Le pire de Sade et de Restif en édition anglaise pirate imprimée à Taïwan. Je m'empourpre un bon coup à lire debout ces obscénités rayonnantes, puis je retourne à mon mur. Quand j'ai faim, je trouve toujours dans les épluchures quelques tomates parfaitement comestibles oubliées par mes collègues et constate que les Japonais ont raison lorsqu'ils accusent les Eta d'être négligents. Ce soir, j'ai terminé mon dernier film. Heureusement. En 4 jours, j'étais devenu mythomane. Les simples passants ne me suffisaient plus. Devant mon mur, je voulais de l'action. Une querelle. Un assassinat. L'empereur. Mon mur théâtre, je l'ai vendu à un magazine de Tokyo. 2 rédacteurs d'abord, qui se repassaient les photos perplexes, puis 4, puis 8, puis 16. Eux aussi, pendant des années, ils étaient passés devant sans le voir. Voilà ce qu'on récolte à toujours prendre le taxi ou le train. Cela m'a fait à peu près la moitié d'un billet pour l'Europe. À Thierry Vernet, Tokyo, le 20 avril 1956. Bon vieux sapin. Rien, absolument rien ne nous sépare. Une chose, cependant, dont je voudrais te savoir assuré, et pour toujours possible, je ne t'en ai jamais voulu, et ne t'en voudrais jamais d'avoir interrompu le voyage. Je t'ai énormément regretté, bien sûr, mais c'est bien différent.
En octobre 1956, Nicolas embarque à Yokohama, en tant que passager cette fois, sur un autre bateau des messageries maritimes, le Cambodge. Le canal de Suez vient d'être fermé et le bateau doit contourner l'Afrique. Il fait escale à Manille, Hong Kong, Saïgon, Singapour, Colombo, Bombay, Madagascar, le Cap et les Canaries. Il atteint Marseille 2 mois plus tard où ses parents sont venus le chercher, 3 ans et 5 mois après son départ de Suisse.
Le voyage, où petit à petit tout nous quitte, est aussi un apprentissage de la mort. Le but de l'état nomade n'est pas de fournir au voyageur trophées ou emplettes, mais de le débarrasser par érosion du superflu, c'est dire de presque tout. Il rançonne, étrille, plume, essore et détrousse comme un bandit de grand chemin. Mais ce qu'il nous laisse, personne ne nous le prendra plus. On se retrouve réduit et allégé. Pour un temps seulement. La légèreté est aussi volatile que précieuse et exige d'être courtisée et reconquise chaque jour. De retour à l'état sédentaire, il faut veiller à ne pas reprendre cette corpulence et cette opacité qu'on se flattait d'avoir perdue. L'écriture, lorsqu'elle approche du vrai texte auquel elle devrait accéder, ressemble intimement au voyage parce que, comme lui, elle est une disparition. Cette disparition est un exercice d'humilité et d'escamotage assez ardu et parfois périlleux, mais auquel il n'est pas interdit de se livrer avec humour. Le but ultime étant de devenir plus léger que cendre.
À Thierry Vernet, 21-22 novembre 1956. Mon bon vieux, à présent, on est très loin de toute côte dans des eaux vierges, hors de la route des paquebots. J'éprouve un grand plaisir à me dire que ces énormes étendues désertes existeront toujours. Ce sont des greniers à solitude qu'on ne pourra pas nous enlever. La mer est un grand pré bleu, le ciel un tapis de minces nuages feuilles mortes, égale, serrée, encore traversée par le soleil. Une lumière admirable tombe sur ma feuille. Dans un instant, il fera nuit. Sur ces grands horizons d'eau calme ou à peine frisée, on peut voir la trace, en plus clair, des grandes bêtes, cachalots, raies, souffleurs et quelquefois, juste sur la jointure de la mer et du ciel, le jet de vapeur régulier et plein d'entrain qu'ils produisent en pleine vitesse. Je continue à prendre des leçons de ciel. C'est chaque jour plus étonnant.
C'était « Pages arrachées » à Nicolas Bouvier. La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. 5e et dernier épisode. Avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramore. Réalisation, Michel Sidorov. Extrait de Chronique japonaise aux éditions Payot et Rivage, de la correspondance entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, parue aux éditions Zoé sous le titre « Correspondance des routes croisées » et de « Réflexions sur l'espace et l'écriture » avec l'aimable autorisation d'Eliane Bouvier.